Donc, du coup, j'invite les participants à la table ronde à ouvrir leur caméra et leur micro. Donc, pour cette table ronde qui se consacre justement à cette place des plantations dans les forêts de demain, mais en questionnant aussi toutes ces représentations associées à la plantation et aux forêts dans leur ensemble. Donc, avec trois acteurs donc de la région Centre-Val de Loire, donc Éric de la Rochère d'Arbocentre, Christophe Poupa de l'ONF et puis Bernadette Vallée de l'association du Ramen. Donc, je vais tout d'abord leur laisser la parole pour se présenter chacun et présenter leur structure que vous ne connaissez peut-être pas en n'étant pas de la région Centre.
Je vais peut-être commencer alors. Voilà, je suis Éric de la Rochère, je suis le délégué général d'Arbocentre. Et Arbocentre, c'est une association interprofessionnelle de la filière forêt-bois en région Centre. Et on a la mission de fédérer les professionnels de la forêt et du bois, de les représenter et de développer la filière forêt-bois, à la fois donc les marchés, d'accompagner les entreprises, donc développer les marchés, accompagner les entreprises. Et veiller à ce que ces entreprises, elles utilisent des bois locaux pour renouveler et adapter la forêt au changement climatique.
Je poursuis. Bonjour à tous. Christophe Poupa. Donc je suis le directeur de l'agence Val-de-Loire pour l'Office national des forêts. Donc l'Office national des forêts, c'est un établissement public à caractère industriel et commercial. Qui gère les forêts publiques, donc forêts de l'État et forêts des collectivités. Et en région centre, c'est environ 100 000 hectares de forêts qui sont toutes ouvertes au public. Ceci en rapport avec l'aspect fréquentation qui a été largement souligné dans les différents propos.
Bonjour à tous, donc je suis Bernadette Vallée, je suis gestionnaire forestier professionnel, donc j'interviens en forêt privée exclusivement en tant qu'indépendante et je suis aujourd'hui présente en tant que présidente de l'association du Ramen, qui est une association régionale qui promeut et qui aide la plantation forestière. Voilà.
J'ai pas allumé mon micro, c'est mieux. ma première question, ce serait, avant d'aborder la question de la place des plantations demain, c'est peut-être, comme on a vu qu'effectivement la plantation peut avoir une place différente dans chacune des régions françaises, c'est peut-être, si vous pouviez préciser, selon vous, quelle est la place aujourd'hui des plantations dans les forêts, plus particulièrement de la région, enfin plus largement, mais en particulier dans la région Centre-Val de Loire. Si vous avez... on ne vous entend pas, Eric, votre micro est coupé.
Pour planter le décor, je crois qu'il faut quand même mettre le cadre. Et le cadre, c'est ce cadre de changement climatique qui est quand même extrêmement important. Et ce besoin d'adapter et de renouveler la forêt. Et donc, il y avait une des questions qui m'avait bien intéressée, et ce qui était aussi... est-ce que les arbres qui peuvent se replanter naturellement, ils sont meilleurs que les autres ou pas? Hein, c'était une question d'un des participants et c'est vraiment une question intéressante. Et en fait, il n'y a pas qu'une seule réponse selon moi, parce que ça dépend où et ça dépend quel arbre. Parce qu'il y a des arbres qui aujourd'hui sont adaptés à leur environnement, hein, à la qualité du sol, à la capacité de rétention d'eau du sol, et d'autres qui sont en limite de station, ce qu'on appelle, hein, et qui sont peut-être encore adaptés aujourd'hui, mais qui ne seront pas dans 10 ans, qui ne seront pas dans 20 ans, et qui ne sont certainement pas dans 50 ans. Voilà. Alors, la vision de l'arbre, c'est une vision à avoir dans le temps, et l'arbre qui pousse aujourd'hui, eh ben, il va être à maturité dans 30 ans ou dans 50 ans, ou dans 20 ans pour un peuplier, mais un chêne, eh ben, il va lui falloir 50, 60, 80 ans avant d'être à maturité, et quel va être le climat dans 80 ans. Voilà. Si c'est pour récolter des chênes qui font 5 ou 10 cm de diamètre dans 10 ans ou dans 20 ans, ça ne sert à rien de planter des chênes, parce que si après ils se mettent à dépérir, ça n'a aucun intérêt. Donc, il faut vraiment voir quel est le contexte et l'adaptation de la forêt et de l'essence et du climat et de la station, c'est-à-dire le sol. Alors, peut-être juste pour compléter, ensuite, eh ben, ça peut être très variable. Et nous, on voit bien, par exemple, en région centre, on a beaucoup de chênes, hein, et puis on a aussi du pin sylvestre. Alors, on plantait du pin sylvestre sur les zones un peu difficiles où on a beaucoup de sable, ou qui sont très séchants en été, hein, qui sont très secs. Voilà. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que nos pins sylvestres, ils sont plus adaptés et ils commencent à dépérir quand même fortement. Donc, même cette valeur refuge par rapport au changement climatique qui était le pin sylvestre, eh ben aujourd'hui, il est remis en cause. Et puis, sur les chênes, on a des chênes pédonculés et des chênes sessiles. Et les chênes pédonculés, donc, bien souvent, ils ne sont plus adaptés non plus. Alors que le chêne, on connaît bien qu'il a une grande résistance quand même au changement climatique. Et celui qui s'installe en premier, c'est le chêne pédonculé. Et c'est celui qui est le moins résistant au changement climatique, paradoxalement. Donc, il n'y a pas un lien direct entre l'installation d'une essence, l'installation d'un arbre, et la pertinence de cette installation-là. Il y a des arbres qui sont plus colonisateurs, hein, qui sont plus précurseurs, mais ils ne sont pas forcément les mieux adaptés au changement climatique. Ils ne sont pas forcément adaptés au climat d'aujourd'hui et encore moins au climat de demain. Et donc, ça repose vraiment toute la question de la plantation en disant, eh ben, comment l'homme peut amener son intelligence pour faire en sorte que cette forêt naturelle, entre guillemets, qui est souhaitée par tout le monde, hein, et que l'on veut transmettre à nos enfants, eh ben, elle puisse être préparée aujourd'hui pour qu'il y ait une pérennité pour nos enfants et nos petits-enfants. Et ce n'est pas la seule nature. S'il n'y avait pas de changement climatique, le raisonnement qui a été tenu, il est tout à fait valable. Hein. Mais aujourd'hui, avec le changement climatique, il faut que l'homme puisse faire son travail de forestier, de jardinier, pour eh ben, prévoir, pour anticiper et arriver à faire en sorte que ce patrimoine forestier auquel tout le monde tient, on puisse le transmettre.
Peut-être des réactions, Christophe Poupa. Est-ce que vous aussi, vous pensez que la plantation va d'autant plus s'imposer? Alors, c'est nécessaire, mais s'imposera d'autant plus avec le changement climatique. C'est vraiment une...
Merci. Oui, alors, pour reposer le cadre de la forêt publique, jusqu'alors, en région centre, nous utilisions, et nous utiliserons toujours dans le futur, mais massivement la régénération naturelle, et donc les arbres se ressemaient naturellement. Bon an, mal an, on reboisait 8% des surfaces renouvelées annuellement, donc c'est quelque chose de très faible. Mais cette proportion va augmenter dans le futur, en partie à cause du phénomène qu'a décrit Eric de la recherche tout à l'heure, du fait qu'on arrive en bout d'adaptation du pin sylvestre. Et j'ai un exemple tout récent, là, cette semaine, nous avons été contraints de marquer en coupe rase, un coupe à blanc, donc ce qui ne fait pas plaisir au public, mais pas aux forestiers non plus, une parcelle de 20 hectares de pin sylvestre en forêt d'Orléans. Et donc parcelle que nous allons exploiter et qui sera reboisée, replantée, mais pas en pin sylvestre. On ne sait pas encore exactement quelle essence on va utiliser, mais en tout cas, ça ne va pas être reconduit à l'identique. Et ce changement climatique, et en particulier sa vitesse, va nous obliger à être interventionnistes. Et pour le coup, il va nous falloir aller beaucoup plus sur le terrain de la communication, parce qu'il va falloir expliquer au grand public ce que l'on fait, et en particulier la vitesse avec laquelle il va falloir qu'on le fasse. Et c'est un phénomène auquel nous sommes contraints, et on ne va pas tellement avoir le choix, c'est-à-dire qu'on va être un peu pris en tenaille entre la nécessité d'aller vite, mais aussi la nécessité d'expliquer et de faire partager pourquoi on va être obligé de faire ça.
Et Bernadette, votre avis?
Je me permettrai de compléter cette vision avec peut-être quelques chiffres. Jusqu'à maintenant, les plantations en région centre représentaient 10% des surfaces qui étaient renouvelées à l'échelle régionale. Hein. Donc, on était avec 90% de régénération naturelle. Pour continuer d'assombrir le tableau présenté par Christophe Poupa, il faut s'attendre aujourd'hui en région centre, sachant qu'on a 90% de nos feuillus qui sont représentés par des chênes et principalement du chêne pédonculé en forêt privée, et que 90% de nos peuplements résineux sont représentés par des pins et notamment le pin sylvestre, et que ces deux essences, pin sylvestre et chêne pédonculé, sont en grave danger de dépérissement massif. Il faut s'attendre à des reboisements de centaines, je dirais volontiers de milliers d'hectares, uniquement en région centre, du fait de cette disparition accélérée de ces deux essences. Donc le paysage va être brutalement bouleversé. Avec des réactions évidemment qui vont être tout aussi brutales auxquelles il faut s'attendre, que je suis entièrement d'accord sur les réactions précédentes, la simple communication unidirectionnelle ne suffira pas. Il faut s'y prendre longtemps en avance et utiliser tous les moyens à notre disposition pour expliquer, faire comprendre la complexité de ce qui est en train de se passer au niveau forestier.
La nécessité, oui, de communiquer, c'est quelque chose qui ressort pour tous. Et Éric de la Rochère, peut-être aussi, quel est votre point de vue par rapport à cette nécessité de communiquer?
Là aussi, il y a une question de cible qui me paraît importante, et ça a été très bien présenté notamment par Christine Farcy, là, et on voyait très bien la proportion de la population urbaine. Aujourd'hui, on est dans comme elle le disait, dans une société tertiaire qui n'est plus ni primaire ni secondaire en termes d'activité, et par des urbains. Et donc, ce sont des gens. Enfin, il suffit de regarder la ville aujourd'hui telle qu'elle est. C'est, je ne vais pas dire, c'est un bloc de béton, mais la part de naturalité dans la ville est extrêmement faible. Et donc, paradoxalement, cette part extrêmement faible, ce déracinement quasiment de l'homme par rapport à la nature. Eh bien, il faut qu'il soit compensé par la forêt. Et donc, pour moi, je pense qu'une des solutions, paradoxalement, c'est quand même de renaturaliser la ville. Et on en a absolument besoin, et ça, c'est peut-être une chance, c'est qu'aujourd'hui, là où le changement climatique est le plus rapide, c'est en ville, parce qu'il y a des pics de chaleur urbains qui sont extrêmement forts. Et puis, il y a des problèmes avec l'eau, parce qu'avec l'intensification des pluies, eh bien, les réseaux d'eau urbains vont être complètement saturés et très rapidement. Et il va falloir renaturaliser la ville. Et c'est vraiment important que la filière bois, elle s'implique dans ce... Forêt bois s'implique dans ce secteur aussi, pour montrer que la nature, elle se gère. La nature, elle apporte des bénéfices à partir du moment où elle est bien gérée. Et que, en fait, il faut que les gens puissent toucher du doigt les choses. Et c'est beaucoup plus facile de toucher du doigt un arbre qui est sur votre porte ou juste à côté que quand il est à 20 km ou 30 km, parce qu'on y va beaucoup moins facilement et on a l'impression que c'est un endroit, effectivement, qu'on laisse sous cloche, parce qu'on ne veut pas que ce soit comme la ville aujourd'hui. Et donc, pour moi, une partie de la solution, c'est de renaturaliser la ville pour redonner ce contact refaire ce contact entre les urbains et les ruraux et entre les urbains et la nature. Et donc, je trouve qu'il faudrait qu'on soit beaucoup plus présent. Il faut qu'on sorte de notre zone de confort. Hein. C'est une zone de confort pour nous de rester dans la forêt quelque part ou dans la filière forêt-bois. Et il faut qu'on aille voir ces gens-là, discuter avec eux. Et bien, les gens, ils vont voir aussi qu'en ville, les arbres, et bien, il faut les élaguer de temps en temps. Que et bien, les platanes, même s'ils ont 150 ans et ils commencent à avoir des branches qui tombent, et bien, il faut prévoir un platane à côté. Il va falloir couper l'arbre. Il faut prévenir les gens que dans 2 ans, dans 5 ans, il va falloir couper ce platane. Et pour en replanter un à côté, il faut peut-être commencer par en replanter un. Et à partir d'éléments comme ça, on va pouvoir expliquer qu'on prépare l'avenir pour nos enfants, pour notre société. On essaye de réguler cette nature et on essaye d'amener l'intelligence humaine pour le faire.
Alors, pour avoir un peu travaillé sur la nature en ville, c'est un peu paradoxal parce que c'est pourtant une nature qui est fortement gérée. Donc, c'est assez paradoxal qu'effectivement, malgré la présence de cette nature fortement gérée en ville, eh bien, on ne perçoive pas non plus l'intérêt de cette gestion de la forêt. Alors, effectivement, ramener la forêt dans la ville, peut-être, pourrait permettre d'améliorer les choses, en tout cas de mieux faire comprendre la nécessité de cette gestion. Christophe Poupa, est-ce que vous voulez réagir par rapport à cette nécessité de communication? Comment communiquer? Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'il faut peut-être amener la forêt en ville?
Alors qu'il faille communiquer, c'est une évidence. Par contre, la martingale de la communication efficace, j'avoue que nous la cherchons encore, parce que c'est franchement pas évident de trouver un équilibre entre de la communication directe vers des très grands effectifs, hein, de personnes qui ne viennent pas spontanément en forêt, et puis la communication plus habituelle qu'on a avec les porteurs d'opinion. Alors, on partait tout à l'heure des ONG, mais il y a aussi toutes les associations locales avec lesquelles on entretient des relations étroites, mais avec toujours la question de leur représentativité et des messages qu'elles portent. Alors, si, en matière, mais je pense qu'on est condamné à cette communication et à cette communication tout à fait transparente, parce que tout à l'heure, Christine Farcier avait fait une parallèle entre le steak et l'arbre. Et ce qui m'a frappé, c'est que les marchands de steak communiquent sur les vaches dans les prés, mais se gardent bien de montrer des images d'abattoirs. Alors que nous, si je file la métaphore, nos abattoirs, c'est la même chose que les prés, c'est les parcelles. Et pour le coup, elles sont ouvertes, parfaitement accessibles, et on n'a pas les moyens de planquer cette phase de la production sous le tapis. Donc on est condamné à être transparent, ouvert, à communiquer, et y compris sur les phases les plus délicates de notre cycle de production. Ce qui fait une grosse différence avec d'autres acteurs, et toujours les marchands de steak, qui eux ont le moyen de mettre la phase d'abattage dans des bâtiments fermés, même si L214 arrive à rentrer de temps en temps, et ce n'est pas sans conséquence. Donc, communiquer, oui, mais j'avoue qu'on reste preneur de toutes les bonnes idées, d'éléments de recherche, parce que la filière communique, hein, au sens large, hein, pas spécialement l'ONF, mais on a des organes nationaux qui font des campagnes de communication grand public. Mais on se rend compte que bah, ça finalement ça passe pas si bien que ça, quoi. Donc la martingale reste à trouver, et on peut imaginer que les sciences sociales pourraient nous aider là-dessus, parce que je pense que en tant que technicien et scientifique, on est un peu à bout de nos outils.
Alors, Catherine fait la remarque, finalement, Catherine Collet fait la remarque qu'au niveau mondial, on a finalement de la plantation forestière qui est à la fois un outil de production, mais aussi un outil de restauration des écosystèmes. Et elle pose la question, comment se fait-il que l'image des plantations ait à ce point basculé vers une vision uniquement de production? Comment faire pour mieux connaître aussi la dimension restauration? Je ne sais pas si Catherine veut compléter sa question, ou si vous voulez répondre, mais peut-être que la solution peut être là.
Pour compléter, ce que je voulais dire, c'est que historiquement, la plantation au 19e siècle, elle a eu une fonction de restauration en France qui était très très importante, hein. Les très gros chantiers de plantation, c'était la restauration des terrains de montagne, de terres infertiles, la remise en valeur de forêts, de terres de meilleure valorisation. Qu'actuellement, on voit que cette fonction de restauration, elle est de plus en plus importante, hein. On reboise souvent après des crises dans lesquelles on n'a pas d'autres solutions. Les scolytes, les tempêtes, où ben, le peuplement ne peut plus se régénérer naturellement. L'anticipation du changement climatique, mettre des essences qui vont être adaptées au climat dans 50 ou 100 ans, c'est aussi la restauration anticipée, on peut dire. Et cette dimension de restauration, elle n'apparaît pas du tout, quoi. Quand on dit plantation aux gens, les gens ils pensent forêt industrielle. Et donc, je me demande comment est-ce qu'on peut mieux mettre en avant cette fonction de restauration qui a peut-être un petit peu disparu dans les 50 dernières années, mais qui revient vraiment en force. Et qui a existé en France historiquement de façon très très importante. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour montrer cette dimension? La plantation, c'est pas que de l'industrie du bois, quoi. C'est aussi la restauration des écosystèmes. C'était ça ma question.
Alors, je suis ravie de cette intervention et je m'appuierai également sur la réaction de Jean-Michel. Escura, l'activité de restauration, alors pour moi, elle était active, notamment RTM, un peu plus longtemps que 1930. On est plutôt années 60-70, même début des années 80, donc ça a duré assez longtemps. Et elle a petit à petit diminué au profit, parce que c'en était un quand même, des plantations du Fonds forestier national, donc largement subventionnées, plantations qui ont été affichées comme étant, et puis qui ont été effectivement réalisées aussi avec beaucoup d'essences résineuses. Hein. L'objectif à l'époque était de produire du bois, d'être autonome donc d'un point de vue économique. Donc tout ça, ça avait du sens. Et je vous rejoins tout à fait, Catherine, dans l'idée de ne pas parler vraiment de plantation, qui est en fait un outil très très large, mais plutôt de parler de restauration de forêt, parce qu'aujourd'hui, au-delà de la mortalité d'espèces et d'arbres, on a des pans d'écosystèmes forestiers qui sont en danger, qui vont l'être, et du coup de plus insister sur ce volet quand on parle plantation, de plus insister sur cette image de restauration et de maintien d'un couvert forestier, qui est par-dessus le marché, je me permets de le rappeler aussi, une obligation réglementaire.
Merci. Alors, je regarde un peu les questions. Si certains veulent intervenir hein, oralement pour poser des questions, n'hésitez pas.
J'avais aussi une remarque. Là, j'avais été aussi interpellé par la personne qui parlait, en fait, les arbres qui sont plantés pour faire des allumettes. Hein, je crois que c'était vous, Amélie, là, qui aviez dit ça. Et moi, j'étais interpellé parce qu'effectivement, on peut dire, pour faire des allumettes, c'est quelque chose qui est très éphémère. Ça, voilà. Et quelque part, je me disais, mais c'est quoi les alternatives ? Hein, alors, l'alternative à l'allumette, eh ben, c'est le briquet en plastique hein, avec du gaz naturel. Hein, c'est ça, l'alternative. Eh ben, finalement, je n'ai pas honte, moi, de planter des peupliers pour éviter d'utiliser du pétrole et du gaz et de salir la planète, quoi. Hein. Et alors ça, l'inconvénient de ce type de remarques et de réactions, c'est que justement, c'est une façon de communiquer, mais à réaction. Et en fait, il faut être à la fois positif et aussi être à réaction, je pense. Il faut arriver à doser un peu les deux dans notre communication. Moi, ça me paraît important quand même de dire, eh ben, vous voulez pas qu'on fasse, vous voulez pas qu'on coupe la forêt, eh ben, dans ces cas-là, on va creuser des mines, et puis on va prendre du béton, on va prendre de l'acier, et puis on va utiliser énormément d'énergie pour faire ça, pour remplacer des charpentes en chêne. Alors, qu'est-ce que vous préférez ? Qu'on utilise la forêt, qu'on la gère bien et qu'on essaye de la développer, ou alors vous préférez qu'on la mette sous cloche et que on voilà. Et puis s'ils disent, eh ben dans ce cas-là, il faut qu'on réduise notre consommation, et c'est vrai qu'il faut le faire. Hein. Voilà. Il dit, mais est-ce que vous êtes prêt à renoncer à votre voiture ? Vous êtes prêt à renoncer à votre ordinateur ? Vous êtes prêt à voilà ? Parce que on n'est pas tous prêts, même si on doit aller vers une réduction de notre consommation à tous. Hein, et c'est inhérent d'ailleurs aux politiques publiques avec les objectifs de 2050, eh bien, la nature et la forêt, elle doit pouvoir apporter positivement quelque chose là-dessus. Et je trouve qu'en termes de communication et de plantation, il faut expliquer que si on a besoin de préserver la biodiversité, il y a des zones qui s'y prêtent bien et il faut le faire et il faut avoir une gestion qui est plus environnementale sur ces zones-là. Et puis, on a besoin d'une pompe à carbone. Et là où on a besoin de pompe à carbone, il faut le faire bien, il faut l'optimiser. Et quand on essaye d'avoir tout à la fois, eh bien, on fait moins bien les différentes choses. Voilà. Donc, nous, en France, on a une vision de la gestion forestière qui est à la fois productive et environnementale. Et les exigences de la société, pour moi, elles me font de plus en plus penser au fait qu'il faut peut-être qu'on soit plus anglo-saxon et qu'on spécialise et qu'on ait des zones de protection intégrale et des zones de plantation intégrale, quelque part. Donc, des très fortes pompes à carbone qui sont extrêmement efficaces et puis des zones de protection de l'environnement. Alors, c'est une vision un peu manichéenne des choses, hein, mais c'est plutôt pour reposer notre problématique hein, de plantation et de notre vision de la forêt et même notre logiciel de la façon dont on pense la forêt en France et des différents usages. On peut très bien avoir, et on le voyait aussi dans voilà, des gens qui disent « Ah, mais moi, je préfère une peupleurée parce qu'on peut se promener dedans. » Eh bien, sur l'aspect récréatif, c'est sûr qu'il faut anthropiser la forêt fortement pour avoir un aspect récréatif. Parce que quand la forêt, elle est pas, quand il y a une forêt, on n'est pas intervenu pendant 50 ans ou 100 ans, on ne peut même plus pénétrer dedans. Hein. Donc, l'aspect récréatif, il n'est que complètement externe. Donc, en fonction des objectifs de la forêt, il faut peut-être réfléchir à un usage hein, et privilégier eh ben, la séquestration de carbone, la production de bois d'œuvre, l'aspect récréatif, l'aspect paysager, l'aspect biodiversité, l'aspect environnement, paysager, etc. Et donc, ça revient à faire quelque chose qui est quand même un petit peu très intéressant, qui est d'avoir une vision plus mosaïque de la forêt et des paysages et des paysages forestiers.
C'est quelque chose qui peut être envisageable, par exemple, pour l'ONF, d'avoir cette vision de la forêt plus mosaïque, plutôt monofonctionnelle, et abandonner la multifonctionnalité vers laquelle on s'est peut-être davantage tourné dernièrement. Est-ce que ça peut être une solution ?
Alors nous, on n'oppose en rien le côté mosaïque et le côté multifonctionnel. Hein. La gestion multifonctionnelle, elle est inscrite dans nos missions. Donc jusqu'à temps que l'État nous dise de faire autre chose, on continuera comme ça. Donc nous sommes au service hein, de l'État via le code forestier, via les contrats qui nous lient régulièrement avec lui. Ensuite, cette forêt mosaïque, c'est déjà quelque chose que l'on pratique. Après, il faut se mettre d'accord sur l'échelle de la mosaïque, c'est-à-dire qu'un massif forestier de 20 hectares ne peut pas être géré comme une forêt domaniale qui en fait 35 000. Donc la mosaïque, elle est toujours valable, mais tout dépend du niveau de zoom qu'on adopte. Ça, c'est important à avoir en tête. Et les évolutions qui sont devant nous, hein, en particulier le changement climatique, va nous entraîner de degré ou de force, et qu'on soit pour ou qu'on soit contre, à de toute façon plus de diversité. Parce qu'on se rend compte que la réaction des peuplements, la réaction des individus n'est pas complètement homogène. Donc on va aller vers plus de diversité dans les âges, dans les traitements et une certaine irrégularisation.
Bernadette, si vous voulez réagir.
Je rejoins tout à fait les propos de Christophe Poupa dans la mesure où cette diversité également est très très affichée en forêt privée, où chaque propriétaire peut dans une certaine mesure orienter la gestion de son patrimoine forestier, et de ce fait on a une diversité de peuplement, une diversité de sylviculture. Alors probablement moins tournée vers la multifonctionnalité que la forêt publique, mais certainement pas exclusivement sur la production de bois, puisque la dimension patrimoniale, y compris de patrimoine biologique autre que la forêt, est assez prégnant en forêt privée, en tout cas en région centre. Donc cette diversité va continuer de se poursuivre et de s'afficher dans l'avenir, j'en suis certaine, et certainement au détriment de certaines espèces, mais c'est pas forcément très très grave, quoi.
Merci. Alors, je lis un petit peu les commentaires hein, qui ont été faits. Donc, effectivement, il est question hein, de lien entre, enfin, d'un côté, la forêt qui permet de produire du bois, mais aussi d'intégrer hein, le sens environnement au sens naturel, donc développer le lien avec la biologie, la compréhension des mécanismes. Ce qui est souligné également, ce sont les travaux de Brigitte Much. Comment on prononce, sur les plantations pour introduire de nouveaux patrimoines génétiques. Effectivement, on pense peut-être, a priori, quand on pense aux plantations, si on pense en premier lieu aux plantations plus industrielles, mais ça peut être aussi introduire de nouveaux, réintroduire des essences disparues. Ça peut être aussi, introduire un nouveau patrimoine génétique, peut-être en sens plus patrimonial. Est-ce que ça peut être aussi est-ce que ce sont des choses qui sont développées, à développer
Oui, alors pour ce qui concerne les travaux de Brigitte Much, en fait, on n'est pas sur des changements d'espèces, on est sur des migrations assistées, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des provenances plus sudistes, donc censément plus résistantes à des climats plus chauds et plus secs, alors que ce soit sur des chênes ou sur des hêtres. Et on les transporte dans des massifs plus au nord. Donc typiquement, on va prendre des hêtres de la région méditerranéenne et on va les emmener, enfin on les a emmenés déjà en forêt de Verdun. De la même façon avec des chênes, nous en forêt d'Orléans, on a planté l'année dernière et on va continuer des chênes qui viennent du sud-ouest, du côté de Tarbes, avec deux objectifs. Alors le premier, c'est d'abord voir le comportement de ces provenances-là dans nos contextes et nos sols, et voir s'ils sont effectivement adaptés. Et le deuxième, c'est d'assurer un brassage génétique et un mélange de gènes. Alors là, il faudra être un petit peu plus patient, hein, encore. Il va falloir attendre que tous ces arbres-là atteignent l'âge auquel ils vont commencer à émettre du pollen. Mais donc, ensemencer avec leur pollen nos propres peuplements.
J'arrive.
Ah. Il y a un monsieur qui arrive.
Je vais peut-être laisser la parole à Jean-Baptiste Ingold qui a une question.
En fait, ça se prolonge tout à fait ce que vient de dire monsieur Poupa, parce que on envisage, je crois, dans le plan de relance, de subventionner des plantations, et c'est plutôt des plantations en plein qui sont subventionnées. Et alors que des plantations qui feraient de l'enrichissement de plantations, qui donc permettraient d'introduire des espèces, des êtres plus résistants au stress hydrique dans une hêtraie, sont pas vraiment privilégiés. Et j'ai l'impression que le changement climatique, c'est vraiment un phénomène très massif, et que en faisant simplement des plantations en plein, on ne touchera qu'un pourcentage très réduit de la surface forestière. Donc c'était un petit peu de se dire, qu'est-ce que les intervenants pensent des plantations comme façon d'enrichir une forêt qui est touchée par le changement climatique.
Alors, je vais volontiers prendre la parole sur ce sujet. L'enrichissement est une des méthodes qui peut tout à fait être retenue pour contribuer aussi bien au mélange d'espèces qu'au mélange de provenance. C'est retenu. Alors, néanmoins, ça fait quelques années que je tourne en forêt. Je tiens quand même à alerter sur le fait que ce sont des méthodes qui sont très, très difficiles à réussir. Techniquement, tout simplement, c'est de la difficulté technique de base, donc ça nécessite une très très forte présence prolongée sur plusieurs années, beaucoup d'assiduité de la part du gestionnaire ou du propriétaire. Donc voilà, c'est pas impossible, c'est juste pas simple. Des moyens de subvention existent, hein, sur ces plantations d'enrichissement. Alors au niveau public, il faut vérifier ça région par région. Et puis vous avez aussi, alors là, petite page sur Duramen, mais Duramen et d'autres mécènes de type privé aident tout à fait ce genre d'orientation technique, hein. Donc voilà, il y a aussi des moyens de subventionner, de trouver des solutions financières. Néanmoins, j'insiste sur la difficulté technique de réussir ces plantations.
C'est effectivement, par exemple, très difficile de protéger face au gibier.
Protection contre le gibier, mais c'est presque un atout, parce que quand on a une gaine plastique qui sort des grands ronciers ou de l'épine, ça permet de retrouver le plant. L'échec de ces enrichissements sont souvent liés à l'absence de suivi de dégagement, et puis à la concurrence des arbres qui restent autour, parce que souvent quand on plante, on a du mal à couper les arbres, et du coup les arbres que l'on installe ont besoin de lumière, etc., etc. Donc voilà, c'est pas simple, mais on y arrive.
Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'inversement, on a du mal. On a sur les plantations sur lesquelles il y a eu des coupes rases auparavant ou sur les terres agricoles, on a des taux d'échec qui sont relativement importants aujourd'hui. Et du coup, parce qu'il n'y a pas encore cette ambiance forestière qui est aussi protectrice. Et ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est de dire, voilà, le niveau de végétation préexistant qui est optimum pour laisser au plan que l'on veut installer la meilleure opportunité, tout en maintenant une ambiance forestière qui est favorable et qui évite d'avoir des sécheresses qui soient trop importantes et qui grillent les feuillages des arbres. Voilà, donc c'est vraiment une question qui, et je pense qu'il y a de l'innovation, pour revenir sur la première intervention, il y a de l'innovation à apporter sur la plantation pour que ces plantations qui sont amenées à être de plus en plus nombreuses, eh bien, on réussisse à avoir un taux de succès qui soit beaucoup plus important que ce qu'on a eu ces trois dernières années à cause des grandes sécheresses. Et ce n'est pas toujours possible d'arroser une fois au milieu de l'été. Voilà. Donc, il faut voir comment la nature peut nous apporter ce climat quelque part optimum et compenser ces pics climatiques et notamment ces sécheresses estivales.
Merci. Donc, globalement, vous êtes tous d'accord sur le fait que les plantations, finalement, vont prendre une place de plus en plus importante du fait du changement climatique à l'avenir en région centre, comme peut-être ailleurs sur le territoire national. Il y avait une question que j'ai pas posée. Dans un territoire Nord-Gironde où la pratique de la monoculture sylvicole, pain maritime en majorité, exploitation privée, donc cette monoculture est importante et dont le manque de résilience a été démontré par le passé, que peut-on concrètement attendre d'une municipalité, d'une communauté de communes ou d'organismes tels que l'ONF pour accompagner les acteurs du milieu forestier pour s'orienter vers un schéma de culture plus mixte, pour abandonner un peu cette monoculture qui a montré peut-être, enfin, qui montre certaines limites, comment accompagner les différents acteurs publics, que ce soit communauté de communes ou ONF ou autres. Vous avez des réponses à apporter à...
Alors, des réponses en la matière, il faut être modeste dans les jugements un peu trop forts, hein, parce que la tempête de 99, c'est un événement climatique d'une telle ampleur que, alors, il y a eu de nombreuses recherches, hein, sur la résilience des essences, des structures, les bénéfices de la fuite irrégulière, etc. Les conclusions sont que, avec les vitesses de vent qu'il y a eu, on peut rien conclure. Donc, de mon point de vue, la tempête de 99 prouve pas qu'il y a un manque de résilience du pain maritime, parce que ça aurait été une autre essence qu'elle serait tombée à peu près de la même façon. Donc là-dessus, il faut être relativement mesuré. Ensuite, la problématique de ce contexte, c'est que les essences utilisables sont extrêmement, extrêmement limitées. Faut se dire qu'on est sur un territoire qui, à la fin 19e, était une immense lande à moutons avec du paludisme, hein. Et là, pour le coup, l'action de l'homme a été plutôt positive en la matière, parce que ça a assaini un très vaste territoire. Donc, il y a effectivement en ce moment des partenariats forêt privée, forêt publique et sous pilotage de la région pour essayer de trouver un peu plus de mélange, c'est-à-dire ajouter à une base de pins maritimes des essences de diversification plutôt feuillues. Alors, ça peut être du chêne vert, ça peut être du chêne liège marginalement. Donc, c'est possible, mais avec les contraintes de sol qui sont celles de cette zone, il ne faut pas espérer avoir quelque chose de très mélangé comme on peut avoir sur les plateaux calcaires de Lorraine ou dans des zones de montagne. Ça restera quand même quelque chose d'assez pur, entre guillemets, en pain maritime, si on veut une fonction de production significative, et ce qui est jusqu'alors le cas.
Une remarque de Catherine, donc autour de cette, effectivement, en soulignant, parlant également, enfin faisant le lien aussi avec les tempêtes et peut-être soulignant peut-être l'inertie de la filière et soulignant qu'il y a aussi la question de la transformation, donc de tout ce qui est scierie, etc., hein, pour l'adaptation à de nouvelles espèces. Est-ce que c'est comment prendre en compte cela, si vous voulez réagir par rapport à ça, j'ai juste pris quelques éléments de sa remarque. Hein. Je n'ai pas tout pris. Je ne sais pas si Catherine veut compléter, apporter d'autres choses. Mais ça me semble intéressant, la question de l'adaptation, effectivement, de la filière aussi, la filière bois par rapport aux plantations.
La filière bois, elle est liée au marché. Hein, donc, c'est la question qui est posée derrière, c'est à la fois l'adaptation du marché. Enfin, je ne dis pas que la filière bois n'a pas d'inertie, hein, loin de là, ce n'est pas ça mon propos. Hein. Mais c'est aussi qu'est-ce que nous sommes tous collectivement capables d'accepter. Hein. Par exemple, quand on veut, je sais pas, acheter du contreplaqué, est-ce qu'on accepte qu'il y ait des nœuds, qu'on accepte des discolorations et des choses comme ça? Et on s'aperçoit que quand on va chez les grandes enseignes de bricolage, et bien, qu'on regarde tel ou tel morceau de bois ou de contreplaqué, et bien, on regarde des choses qui sont assez homogènes finalement. Donc, je pense que c'est toute la société qui doit s'adapter. La filière bois, c'est un maillon qui a ses propres inerties parce qu'elle a ses habitudes, elle a ses propres outils. Le maillon de la scierie, c'est un maillon qui est très capitalistique en fait. Hein, il y a des petites scieries, mais qui ont besoin d'un fonds de roulement qui est quasiment d'un an de chiffre d'affaires, donc c'est extrêmement important. Ils ont à la fois cette capacité d'adaptation, et on l'a vu par exemple, parce qu'en quelques années, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, on sciait par exemple très peu de Douglas, et puis maintenant c'est devenu une essence assez phare qui est demandée. Alors pourquoi on a fait cette conversion? Parce qu'on s'est aperçu que dans la construction bois c'était très bien et que ça avait des gros avantages par rapport au sapin ou au traitement des bois. Donc il y a une capacité d'adaptation, il y a une inertie, hein, indéniablement, qui est liée à la structure elle-même de la filière, et puis il y a l'inertie des marchés. Hein, il y a l'inertie des marchés, et on le voit bien. Est-ce que moi, quand je pense à maison, est-ce que je pense à une maison en bois? Est-ce que je pense à une maison en bois et en paille? Ou est-ce que je suis toujours sur une maison en parpaing avec une isolation en laine de bois ou laine de roche, hein, laine de verre ou laine de roche? Donc, c'est vraiment, ça repose la question à nous-mêmes, comment le marché, et nous sommes acteurs de ce marché, comment il va évoluer? Et est-ce qu'il a une capacité d'adaptation? Moi, je pense que de plus en plus, il y a une prise de conscience forte sur les matériaux biosourcés, sur le bois, sur la forêt. Et même si aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des gens qui veulent mettre la forêt sous cloche, eh bien, on voit bien aussi que d'autres disent eh bien, on a besoin de stocker du carbone, on a besoin de le stocker dans le bâtiment. Et quand on regarde les incendies qu'il y a eu aux États-Unis, en Californie, en Australie ou même près de chez nous au Portugal, eh bien, on se dit, moi, je préfère avoir ce bois-là dans ma maison et pour 150 ans ou 200 ans ou plus, plutôt que de le laisser brûler en forêt. Donc, c'est bien de laisser des bois morts en forêt pour la biodiversité, mais quand même, il faut qu'une part importante de la production de bois puisse être stockée durablement dans les biens de consommation. Et quand je dis biens de consommation, c'est les biens de consommation durables, hein. Ce n'est pas forcément justement les allumettes. Hein. C'est d'abord pour faire de la charpente, de la structure, des éléments qui vont rester plusieurs dizaines, plusieurs centaines d'années dans notre patrimoine et qui vont améliorer notre qualité de vie pendant plusieurs dizaines ou plusieurs centaines d'années. Donc, cette capacité d'adaptation de la filière, hein, pour revenir à cette question, elle dépend beaucoup de la capacité d'adaptation de la société à ce fait environnemental, à cette gestion du changement climatique par l'ensemble de la société. Si les marchés ne sont pas du tout ouverts au changement, eh bien, la filière sera quelque part obligée, même si elle a un rôle d'impulsion à donner quand même sur un certain nombre de produits, eh bien, elle suivra automatiquement les marchés. Donc, la question, elle porte sur les marchés quand même principalement. Et je suis quand même assez optimiste.
Est-ce que vous avez des choses à ajouter, Christophe, peut-être, Christophe Poupa, sur cette question de la filière et de la nécessité de les prendre en compte dans les plantations qui sont réalisées.
Non, pas particulièrement. Après, c'est un appel plutôt à la modestie, parce que tout à l'heure, sur le prisme des engagements forestiers, il était rappelé l'ordonnance de 1669. Mais cette ordonnance-là, elle n'était pas faite pour assurer spécialement la pérennité de la... Comment dire, elle était faite pour satisfaire aux besoins de la société à ce moment-là, mais qui était la production de bois de marine. Et le temps que les arbres en question arrivent à des diamètres pour faire des bois de marine, la marine, elle était passée au charbon et à l'acier. Donc, la posture du forestier doit quand même être modeste. Et il faut être raisonnable sur notre capacité à impulser des changements vu les délais de production qui sont les nôtres.
Et d'ailleurs aussi, je trouve qu'il y avait une réflexion qui m'avait aussi intéressé tout à l'heure. C'était quand on parlait de Versailles et de l'évolution de Versailles. Et il y avait, je crois que le terme qui a été utilisé, c'était à l'époque, ils voulaient dompter la nature. Je crois que c'est le terme qui a été utilisé, mais j'en suis plus certain. Et du coup, ça me faisait penser, mais cette nature aujourd'hui, est-ce qu'on est encore capable de la dompter? Et c'est pas sûr qu'il faille la dompter aujourd'hui. Aujourd'hui, la société, elle veut plutôt qu'on l'apprivoise. Et il y a cette notion dans apprivoiser ou dompter. Alors, la plantation, on est plutôt sur le fait de dompter. Mais comment on peut faire en sorte que nos plantations ne se soient pas perçues comme on dompte des animaux, mais qu'on apprivoise finalement la nature pour faire en sorte qu'elle donne le maximum de ses bénéfices tout en gardant une certaine naturalité. Et je trouvais cette réflexion historique intéressante parce que ça amène quand même, ça garde cette notion d'efficacité quelque part, hein, dans apprivoiser, et ça garde aussi cette naturalité et une relation forte entre la forêt et l'homme. Alors qu'un animal qui est dompté, c'est pas un objet, hein, je ne sais pas ce que je veux dire, mais il y a quand même une ingérence qui est un peu négative dans le fait de dompter. Voilà. Et moi, je trouvais que cette notion d'apprivoiser la nature et de l'apprivoiser dans la plantation, c'est quelque chose d'intéressant. Et tout à l'heure, quand je disais quel environnement végétal il faut mettre à une plantation, et bien là aussi, il faut essayer d'apprivoiser cette nature pour qu'elle puisse apporter le meilleur bénéfice, mais que l'objectif de la plantation des arbres, eh ben, elle puisse être aussi efficace que possible, parce qu'on a besoin de cette efficacité pour capter du carbone, pour produire du bois d'œuvre qui va ensuite se substituer à d'autres matériaux qui sont extrêmement énergivores. Donc, ça va permettre non seulement de réduire l'effet de serre, mais aussi de substituer et d'éviter de nombreuses émissions. Donc, on a vraiment ce rôle de rendre compatible la sylviculture telle qu'on sait bien la faire aujourd'hui, mais qui est aussi héritée de, je sais pas, de 250 ou 350 années d'expérience. Et il faut qu'on arrive à la faire évoluer à l'aune du changement climatique. Hein, il faut que le changement climatique, on arrive à modifier et à innover pour faire en sorte qu'on puisse mettre en œuvre une sylviculture qui reste tout aussi efficace, mais qui soit aussi perçu par nos contemporains comme plutôt un apprivoisement de la nature que comme le fait de dompter la nature.
Merci. Peut-être juste une, parce que le temps est déjà là, peut-être juste une dernière question pour Bernadette qui voulait réagir, alors soit si elle veut réagir sur ce dont on vient de parler, mais qui voulait réagir aussi sur la question du greenwashing. Voilà, si le lien entre plantation et tout le greenwashing qu'il peut y avoir actuellement, qui se développe de plus en plus.
Oui, merci. Peut-être juste un point sur prolongement entre humilité et filière. Pour apporter peut-être un éclairage un petit peu différent, je voudrais quand même insister sur le fait que la filière bois est une de ces rares filières qui s'adapte à la matière première et non pas l'inverse. De ce côté-là, c'est quand même plutôt une réussite. On l'a vu pour reciter le peuplier, c'est notamment complètement le cas sur des filières telles que le peuplier et les filières résineuses. où l'outil industriel s'adapte à la matière qui lui est fournie et pas l'inverse. Donc, de ce côté-là, je suis assez optimiste aussi sur sa capacité d'adaptation dans l'avenir. Sur le volet greenwashing, oui. Un point très très important en matière de plantation, avec ce que l'on voit en ce moment, l'émergence de très nombreux ou de très nombreuses formes de mécènes. Je ne saurais que trop vous mettre en garde pour arriver à identifier d'où vient l'argent qui sert à toutes ces plantations avec du financement privé. C'est très très important de remonter les filières financières à ce sujet-là. Malheureusement, on se rend compte que sous couvert de financement, de défiscalisation diverses et variées et de forces communication, l'argent qui finalement sert à planter un arbre est issu d'origines que l'on ne souhaite pas forcément. En tant que porteur de projet de plantation et également parfois ben, pour 1 euro d'arbre planté, on peut avoir 10 euros dépensés en communication. Donc voilà, donc regardez bien d'où vient l'argent quand vous sollicitez des mécénats et des appuis financiers pour la plantation. Regardez bien les organismes, scrutez les organismes qui servent de filtre. Alors Duramen en tant qu'organisme qui sert à financer certains de ces projets et filtre d'autres financements, on fait voilà, c'est un point de vigilance très très important pour nous. Nous ne sommes pas les seuls, hein, bien sûr, mais c'est un point de vigilance fondamental. Ouais. Donc attention à tout ça.
Merci beaucoup. Je vous propose de clore cette table ronde, sauf si vous avez un petit mot à rajouter par rapport à ces échanges qui ont été fort intéressants. Je pense que tout le monde a beaucoup apprécié les échanges. Sinon, en tout cas, je tiens vraiment à vous remercier d'avoir accepté de prendre part à cette table ronde. Je remercie aussi les intervenantes. Alors, elles sont parties, mais elles ont dû nous quitter. Mais je vous remercie tous pour votre participation à ce webinaire. Globalement, ce qui ressort, hein, c'est une nécessité d'innovation, mais on voit qu'il y a des freins, hein, qui se posent et que l'innovation, elle ne s'impose pas partout chez tous les acteurs forestiers. Hein, des leviers sont à mettre en place, hein, pour essayer de développer davantage ces innovations. Mais ce qu'on a vu aussi et surtout, c'est cette problématique sociale et finalement ce décalage entre le secteur forestier et le reste de la société, hein, avec des incompréhensions peut-être mutuelles qui fait que, et par méconnaissance, hein, surtout de ce que l'on fait du bois, hein, enfin, moi, personnellement, j'ai pu le voir, hein, pour les peupliers, on ne sait pas ce que l'on fait du bois de peuplier. C'était vraiment une question importante qui était posée. Globalement, ce que l'on peut voir et ce que l'on a vu là dans le cadre de la table ronde, hein, c'est que les plantations, elles vont être amenées à occuper une place de plus en plus importante à l'avenir pour produire du bois, pour protéger aussi. Hein, la notion de préservation, de restauration a été évoquée. Effectivement, peut-être qu'il faut aussi davantage le souligner, mais enfin, cet intérêt des plantations, hein, c'est notamment dans le cadre du changement climatique, évidemment, hein, pour adapter les formations végétales que l'on a localement. Parce qu'effectivement, la question avait été de planter des semis locaux, mais le problème, c'est qu'on est face à un changement climatique et finalement, ces semis locaux ne risquent de ne plus être adaptés à l'avenir. Donc, c'est un peu ça aussi ce qui... Ce qui suscite le fait que les plantations risquent de prendre une place de plus en plus importante à l'avenir. Évidemment, ça pose la question de l'intégration de ces plantations et puis de savoir ce pourquoi on plante et peut-être de varier les différents types de plantations. Donc, cette conclusion de table ronde sur finalement l'importance croissante des plantations nous conforte dans le cadre du projet Plantaclim, hein, puisque c'est un peu le pari que nous avons fait dans le cadre du projet Plantaclim, qui est de tabler sur un avenir où on aura de plus en plus de plantations et donc eh bien, travailler sur une amélioration des services que ces plantations peuvent rendre, tant du point de vue social, mais aussi du point de vue environnemental, ce qui paraît nécessaire. Donc, j'espère qu'on pourra bien vite vous transmettre les avancées de notre projet que l'on a donc en région Centre-Val de Loire. Voilà. Merci à tous pour votre participation et puis eh bien, j'espère à bientôt pour d'autres séminaires, enfin pour d'autres webinaires, mais j'espère encore plus des séminaires où on pourra se voir en présentiel. Je ne sais pas si Sylvie est là, si elle veut.
Oui, c'est bon. Je suis là, oui, j'ai eu un problème à un moment d'ordinateur, mais c'est bon. Oui, merci beaucoup. Alors, je pense que voilà, la prochaine fois, ce sera un séminaire. Hein, on va pas. Là, c'est vrai qu'on avait retardé, hein, donc on était obligé de terminer ce projet-là. Mais en tout cas, pour la suite, très clairement, plutôt du séminaire. Et puis que je pense qu'on essaiera d'associer aussi avec du terrain, parce que c'est vrai que c'est quand même intéressant aussi d'aller sur le territoire avec les acteurs concernés. Donc, merci beaucoup à tous pour votre présence et votre réactivité, votre intérêt.
Merci, bonne journée, au revoir.
Au revoir.